L'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'Aime, l'émission, le magazine de Radio Évasion, une radio qui pense que l'alimentation, c'est essentiel, c'est politique et culturel, c'est social, c'est tout ce que vous voulez, mais en tout cas, il faut en parler, exactement comme notre partenaire qui vient donc une fois par mois, c'est l'Université des sciences et pratiques gastronomiques. Alors j'ai déjà expliqué, le siège est à Quimper, mais l'intervention est potentiellement mondiale, on va dire ça. Et l'objet principal justement de l'USPG, et c'est de cela qu'il est question aujourd'hui avec notre invité et partenaire Xavier Hamon, fondateur de l'USPG. Bonjour Xavier.
Bonjour Véronique.
On va donc parler formation. Mais ce n'est pas la seule mission. Alors, l'USPG a trois missions essentielles, c'est ça? Alors, quelles sont-elles?
La formation, la recherche. On va démarrer une recherche notamment sur la réintroduction du millet et du sorgho en Bretagne avec des chercheurs et des éleveurs et des cultivateurs. Et on va essayer d'y trouver des applications culinaires, par exemple. Et sinon, la troisième, c'est de l'éducation populaire sur le thème de l'alimentation. C'est ce que je fais ce matin avec vous pour parler de l'alimentation partout où on peut.
Et on va donc parler formation, parce que c'est l'essentiel quand même des activités pour l'instant, puisque c'est une université, après tout, on doit transmettre, c'est ça?
Exactement, on a deux formes de transmission, les formations à proprement parler, telles qu'on les connaît dans les formats classiques, et on fait aussi des accompagnements qui sont un mélange d'acculturation à une nouvelle alimentation et de formation pour accompagner des équipes de restauration sociale, par exemple, de collectivités.
Alors, il y a un contexte, c'est que la formation a été réformée récemment. Alors, on va peut-être quand même le rappeler parce que ça a un impact, j'imagine, sur ce qu'on peut proposer, quoi.
En deux mots, en 2018, effectivement, il a été décidé par le gouvernement que la formation, en tout cas les besoins en formation et les financements de la formation, repasseraient dans les mains de l'État et des branches professionnelles. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les formations qui sont finançables par ces dispositifs sont décidés et par l'État et par les branches professionnelles qui décident de quelle formation elles ont besoin pour l'avenir. Ce qui veut dire aussi qu'en fonction de qui dirige la branche professionnelle, les besoins ne seront pas forcément les mêmes.
Et en plus, ça dépend des régions, c'est ça, non? Ou des départements? Enfin, c'est un peu géographiquement sectorisé.
Alors, administrativement, c'est sectorisé, mais la politique générale de la formation professionnelle a été recentralisée, pour le coup.
D'accord. Mais alors, ça veut dire que, bon, il y a eu beaucoup d'organismes de formation qui ont dû... Enfin, il y a eu un tri qui a été fait, on va dire, quoi. C'est ça.
Alors, l'axe majeur qui a été décidé, effectivement, il y a du tri, c'est que chaque formation qui aujourd'hui est financée par la branche professionnelle ou pour les pouvoirs publics est obligatoirement qualifiante, certifiante. C'est loin d'être le cas de toutes les autres formations qui existaient auparavant. Et ça, c'est un processus qui est long. Qui est lourd administrativement parlant et qui doit répondre à des critères bien précis. Pour qu'une formation soit certifiante, eh bien, il faut qu'elle apporte des qualifications et des compétences en lien avec les besoins de la profession. Et ça doit être validé par un grand organisme, qui est une grande agence nationale, en grosso modo, de la formation, qui s'appelle France Compétences. Et là, on est sur un dossier de référencement dans lequel nous, on est là en ce moment, pour faire valider nos formations comme étant certifiantes. Si vous n'êtes pas certifiante, vous ne pouvez pas faire financer vos formations par les budgets de la formation professionnelle.
Voilà, après, on peut toujours faire financer quand une entreprise décide de financer elle-même une formation. Bon, on peut toujours proposer des petites formations. Voilà. Parce qu'en fait, le problème, c'est aussi que ces formations-là, du coup, il faut qu'elles soient assez longues. Enfin, on ne peut pas faire une formation certifiante en 3 heures, quoi, ou en 2 journées.
Enfin, alors, justement, effectivement, c'est difficilement. Et en même temps, il y a deux registres possibles. Il y a les formations initiales qui forcément ne peuvent pas se faire en 3 semaines, mais il y a aussi des formations complémentaires qui peuvent aussi être certifiantes, et on est sur des beaucoup plus petits formats. Donc les deux sont possibles quand même malgré tout. Après, ça dépend aussi de la politique de l'entreprise, mais effectivement, chaque entreprise a l'obligation de toute façon de développer un plan de développement des compétences de ses salariés qui est finançable soit par la branche professionnelle, soit par le CPF, donc par le salarié, soit par l'entreprise elle-même, soit par un ensemble des trois.
Alors le CPF, justement, c'est ce qui a remplacé compte personnel de formation. C'est un peu ce qui a remplacé avant ce qu'on appelait le DIF. Mais sauf que c'est plus du tout la même chose, parce qu'avec son DIF, un salarié pouvait faire en gros tout ce qu'ils voulaient. Enfin, on pouvait faire, j'aurais pu faire des cours de couture. Voilà.
D'ailleurs, ça s'appelait le droit individuel à la formation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait effectivement l'envie de personnellement de se réorienter, on pouvait choisir n'importe quelle branche ou alors c'est un droit qu'on exerçait de façon complètement libre, quel que soit le sujet. Aujourd'hui, non. C'est là que tout a été recentralisé. L'État a décidé que les budgets alloués à la formation étaient forcément en lien direct avec les besoins des entreprises et non plus le droit à la formation des individus. Mmh. Ça change fondamentalement la culture du financement.
Mais qui définit les besoins des entreprises ?
Alors, qui définit les besoins des entreprises ? C'est donc la branche professionnelle, principalement. Donc, on est tous issus de branches professionnelles qui regroupent des syndicats de patronat, des syndicats de salariés, qui, au regard de l'évolution du marché et de l'économie, définissent les besoins des entreprises. Et c'est là qu'on fait le lien entre des choix politiques de société et des besoins des entreprises.
Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Et si on prend l'exemple des métiers alimentaires, qu'est-ce qui a été défini comme besoin, justement ?
Ce qui a été défini, c'est qu'il y a d'abord un besoin de main-d'œuvre.
Voilà. Apparemment, 110 000, c'est ça ? J'ai entendu ça ce matin, il me semble.
Oui, je pense qu'on est plus près des 200 000, mais il y a énormément de besoin de main-d'œuvre. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce qu'on n'a pas défini quel type de main-d'œuvre on a besoin. Et on voit bien que les contenus des formations orientent plus vers des bouts de compétences qu'on met les unes au bout des autres. Capacité à réceptionner des marchandises, capacité à évaluer la qualité d'une marchandise. Grosso modo, vous mettez un thermomètre dans la caisse de poisson et si elle a bonne température, vous avez la capacité d'évaluer la qualité de la marchandise arrivée. Et ça, mis bout à bout, ça peut vous permettre d'obtenir des bouts de compétences et qui seront validés après dans une certification.
Et j'ai une autre question sur les branches professionnelles. Est-ce que tout ce qui est service, puisqu'on sait qu'on manque absolument de serveuses et serveurs, c'est la même branche que cuisine, par exemple ?
C'est la même branche que cuisine. C'est aussi la même branche que les aides à la personne.
Ah oui, enfin, ça par contre, c'est... Oui.
Il y a aussi eu un regroupement. En fait, le nom dit tout. On est dans une branche professionnelle qui représente les entreprises à forte... qui ont besoin de...
aux besoins humains.
Oui, c'est ça. C'est à forte intensité de main-d'œuvre. Voilà. Forte intensité de main-d'œuvre. Et là, je crois que tout est dit. Forte intensité de main-d'œuvre, on retrouve tous les métiers du service et pas forcément les plus valorisés de nos jours. Grosso modo, demain, si moi, l'USPG décide de créer une formation de gestion d'entrepôts de logistique, j'ai toutes les chances d'être financé par la branche professionnelle, puisque Amazon arrive bientôt, les entrepôts se développent un peu partout. Donc là, j'ai un boulevard devant moi pour proposer ce type de formation qui répond à des besoins des entreprises et non plus à des besoins d'une société.
Et puis pas forcément, en plus, à des compétences. Enfin là, je ne sais pas si l'USPG est très compétente pour la logistique, j'en sais rien. D'accord, donc on voit qu'il y a quand même des inconvénients. Est-ce qu'il y a des intérêts éventuellement à cette réforme ?
Alors, l'intérêt de la réforme quand même, c'est qu'elle elle oblige à avoir une rigueur pédagogique qu'il n'y avait pas forcément avant. Et ça, c'est plutôt intéressant. L'USPG qui s'est créé à partir de cuisiniers qui, eux, ne sont pas formateurs, ce n'était pas notre métier, ça nous a obligés, nous, à nous professionnaliser et à imaginer comment on allait transmettre nos savoirs. Avoir un savoir, c'est une chose, le transmettre, c'est encore un autre métier. Et ça oblige à avoir des processus qualitatifs de formation qui sont intéressants.
Et donc, concrètement, vous avez suivi des formations de formateurs
Formations de formateurs. On s'est aussi entouré au sein du conseil d'administration de personnalités qui, eux, ont l'expérience depuis 15, 20 ans de la transmission, qui ont éprouvé leurs méthodes et desquelles on s'est inspiré. Mmh.
Voilà. Alors, on va aborder quand même concrètement, parce que l'USPG, enfin l'Université des sciences et pratiques gastronomiques, pour être précise, c'est, on l'a dit, essentiellement de la formation. Ouais. Alors, au départ, vous aviez dans l'objectif de dispenser quel type de formation ? C'était plutôt cuisine, je crois, non ?
Alors, au départ, c'est la cuisine. On reste d'abord sur notre cœur de métier, même si on espère à l'avenir s'élargir à d'autres métiers de l'alimentation qui partagent notre philosophie. Mais c'est vrai que notre cœur de métier, c'était la cuisine, donc on est resté là-dessus. Pourquoi on en est arrivé là ? C'est bien parce que justement, nous, on a estimé que la formation actuelle ne répondait pas à nos besoins d'entrepreneurs.
Ouais, parce que c'est pas ce qui manque, les formations de cuisine. Enfin,
ah non, non, d'ailleurs, ouais. D'ailleurs, on peut bien se demander qu'est-ce que fait l'UNESPG dans l'univers, il y en a bien assez comme ça. Sauf que si on regarde l'évolution des programmes de formation initiale, du CAP jusqu'au BTS ou même à la licence, on voit bien que c'est une orientation vers un type de restauration qui ne correspond pas à ce que nous, on défend. Notamment, dans les premières formations de type CAP, on a de plus en plus recours à l'enseignement des produits semi-élaborés.
Ah oui, carrément. On apprend à cuisiner des produits déjà cuisinés, c'est ça?
Bah, par exemple, oui. Et puis, par exemple, vous voyez dans le référentiel, on va rester très basique. Comment on nettoie des légumes? Eh bien, on nettoie des légumes dans une solution chlorée. Voilà. Ça, ce n'est pas arrivé par hasard. Voilà. C'est aussi c'est ce qui dérive des pratiques qui ont été initiées par une hygiénisation du système, à tel point qu'aujourd'hui, énormément de cuisiniers s'auto-censurent sur leurs pratiques. Quand j'affirme qu'une tomate cueillie fraîchement en circuit court n'a pas besoin de passer par le frigo pour être servie au client, il faut juste qu'elle soit propre et comestible.
Ah bah vous voyez pas même au niveau du goût.
Merci Véronique. Et bah voyez, je passe pour un dangereux hurluberlu.
Ah bon.
Donc parce que le cuisinier, à force de lui faire rentrer dans la tête que cuisiner c'est dangereux, il se protège de tout, y compris et il va jusqu'à mettre des tomates fraîches cueillies le matin au frigo pour les conserver jusqu'au lendemain, ce qui est une hérésie en termes de goût. Et une tomate cueillie fraîche le matin peut être conservée jusqu'au lendemain ou sur le lendemain sans aucun problème, à condition qu'elle soit évidemment stockée dans un endroit frais, sec, mais pas forcément une chambre froide.
Oui. Voilà. Et j'irais même plus loin. Enfin, moi, pour moi, mettre des légumes dans une solution chlorée pour les nettoyer, c'est pas un peu dangereux
Alors, en soi. La dilution, non, mais c'est là que les services vétérinaires travaillent bien, ou les concepteurs de l'hygiénisation des cuisines travaillent bien. C'est une dilution, donc ça reste non dangereux pour la consommation, mais c'est un non-sens par rapport à. Alors, décontaminer un légume, alors de quoi on va le décontaminer?
Oui, déjà.
Ça pose la question.
De quoi
à quoi il est contaminé? Ouais. Et ça fait bien appel au type de produit qu'on met dans une assiette. Et c'est bien parce que tout ça, on ne l'avait pas dans les formations, qu'on s'est dit, mais comment on fait pour transmettre, nous, ce qu'on sait faire? Parce qu'on n'a pas choisi cette voie-là.
Mais tout en restant dans les clous, parce qu'il y a des normes d'hygiène qu'il faut respecter, etc. C'est ça aussi le problème, non, j'imagine?
En fait, c'est ce qui est présenté comme un problème, mais qui, pour nous, ne l'est pas. C'est-à-dire que travailler en direct avec des producteurs, transformer, faire du fait maison de A à Z, ne pas avoir recours à des produits semi-élaborés, ne nous exonère pas de l'hygiène minimum dans une cuisine, ne nous exonère pas d'une prévention de toutes les maladies qui peuvent exister liées aux bactéries, aux infections dans une cuisine. Donc, je dirais même que il y a aucun modèle de cuisine qui garantit à 100% les toxi-infections alimentaires, puisqu'on voit bien que ce qui fait le titre des journaux, c'est plutôt les infections alimentaires dans les grosses structures. Parce que effectivement, alors le volume dans les grosses structures oblige à un peu plus de vigilance, c'est une évidence.
Oui, parce qu'on a plus de risques.
Et puis on a aussi affaire souvent avec des personnes à risque, soit les jeunes enfants, soit les personnes âgées. Mais en fait, cuisiner frais de saison et local n'exonère pas de travailler proprement.
Donc il y avait ce besoin, donc l'Université des sciences et pratiques gastronomiques, donc les professionnels derrière, donc c'est quoi l'Alliance des cuisiniers slow food,
des cuisiniers slow food, mais aussi on est rejoint par quelques formateurs du mouvement des cuisines nourricières, qui est plutôt un mouvement issu de la restauration collective, mm-hmm. et qui partage notre même philosophie de faire du frais, du fait maison, du bio, du local dans une collectivité.
Jean Rosnoen, par exemple, par chez nous.
Jean Rosnoen, que j'ai croisé il n'y a pas très
rebelle.
Longtemps. Exactement. Victor des cantines rebelles. Oui, exactement. Donc, c'est tout ce mouvement-là qui s'est reconnu dans les besoins qu'on exprimait, nous, et qui nous a aidés à penser ces formations.
Donc, besoin d'apprendre à cuisiner du frais. D'autres besoins par rapport à la formation classique de la cuisine. On l'a déjà évoqué dans des missions précédentes, mais peut-être quel type de produit, apprendre peut-être à cuisiner les légumes davantage, c'est ça, plutôt que la viande, utiliser la viande différemment.
Voilà, les premiers modules sur les formations longues, initiales, on, 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 c'est une approche culturelle qu'on fait. On essaie de changer de culture, de représentation de la cuisine, effectivement, pour se dire que la cuisine, c'est pas un corpus de recettes qu'on va réciter comme ça bêtement, mais c'est bien à partir de notre propre réflexion, qu'est-ce qu'on met dans l'assiette, pourquoi on le met, et effectivement, dans la réflexion, il y a plus de légumineuses. Alors, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais il y a des enjeux de société qui nous concernent, nous cuisiniers. Et si on veut s'en emparer, alors il faut qu'on commence à élaborer et à penser la cuisine différemment.
Voilà, on inverse un peu le prisme, c'est-à-dire que la viande devient un accompagnement, les légumes deviennent le centre du plat, enfin il y a ça.
Exactement, dans les formations ou dans les accompagnements que je peux faire, je prends toujours l'exemple, quand je fais ça avec les enfants, notamment sur un collège à Brest, on a fait ça il y a quelques mois, c'est quoi votre repas préféré? C'est quoi le repas idéal pour vous? Et évidemment, le burger sort tout de suite. Je dis, ok, ben on peut faire un burger, mais comment le faire responsable? Puisque vous êtes aussi très sensible à la question environnementale, à la question climatique, à la question sociale. Alors, est-ce qu'un burger est socialement acceptable? Est-ce qu'un burger est climatiquement respecté? Et là, on commence à travailler la question culturelle. C'est-à-dire qu'on peut, demain, proposer un burger, mais à partir de la discussion avec les enfants, et on va bien voir qu'on va mettre un peu moins de viande, de meilleure qualité, peut-être cuisiner différemment, un peu plus de légumes, et on va s'intéresser aux variétés, etc.
Et puis, par exemple, apprendre à faire des bonnes pâtes végétariennes aux légumes, eh ben, ça veut dire cuisiner les légumes d'une certaine façon, c'est ça?
Cuisiner les légumes d'une certaine façon, apprendre à maîtriser les cuissons, à pas trop les cuire, à conserver les nutriments un maximum. On a aussi des éléments d'alimentation santé dans nos formations. Alors, on ne devient pas des nutritionnistes, hein, entendons-nous bien, mais par contre, des éléments de base pour conserver un maximum de nutriments. Éviter de cuire les légumes dans des grands volumes d'eau. Tous les bénéfices partent dans l'eau, qui finissent dans l'évier. C'est quand même
pas bon.
Et puis après, on va prendre des compléments alimentaires parce qu'on est dénutri.
Oui, bien sûr.
Alors qu'en fait, on a tout mis dans la flotte.
Voilà.
Donc voilà, c'est des petites choses. Mais
ouais. On avait parlé des espèces de poissons aussi, c'est-à-dire qu'il y a des espèces qui sont moins menacées que d'autres, on va dire, mais qu'il faut apprendre à cuisiner, enfin, c'est ça
Exactement. En ce moment, tout le monde a en tête le poulpe qui détruit, les bandes dorades et les coquillages. Bon, voilà, c'est une réalité, il faut qu'on s'y adapte. C'est aussi ça, quand on veut... quand on travaille avec le vivant, quand on travaille avec la proximité naturelle qu'on a là, ici, alors, chez nous, c'est effectivement le poisson, on en a plein. Les saisonnalités changent. D'une année sur l'autre, la saisonnalité, elle change aussi. Ce qui était abondant une année ne l'est pas forcément l'autre année. Donc, on apprend aussi cette adaptabilité. Et pour être adaptable et adapté, eh bien, il faut un élément essentiel, c'est être en contact direct avec les gens qui font.
Et c'est là qu'on en arrive au type de formation. Donc, alors, quels sont les différents types? Donc, il y a des formations courtes, longues,
Il y a deux grands types de formations. La formation initiale qui n'a pas démarré, qui va démarrer en septembre 2022, qui est un titre professionnel. Alors aujourd'hui, on rentre dans un processus de certification, donc qui sera reconnu titre professionnel après deux promotions seulement. Mais ce titre professionnel, c'est une formation sur 30 semaines, 15 semaines en centre de formation, 15 semaines en entreprise. Et ce titre professionnel formera d'un côté à la cuisine que j'appelle contemporaine, qui est plutôt la cuisine commerciale, et de l'autre côté, à la cuisine dite sociale, donc plutôt la cuisine de collectivité.
Et ça sera quoi son intitulé à ce titre professionnel?
Titre professionnel, artisan cuisinier éco-responsable.
D'accord. Bon, ça sera peut-être la seule dans le Finistère à porter ce titre-là, non?
Ah, c'est sûr. Alors, c'est bien notre ambition, en fait, c'est d'aller jusqu'au bout d'avoir cette reconnaissance, d'avoir été les premiers à porter cette vision-là et de déposer cette formation à notre nom. D'autres pourront s'en emparer après, mais à partir de notre référentiel de formation. C'est-à-dire que si demain, ailleurs en France, on veut enseigner le même titre professionnel, ils seront obligés de reprendre notre référentiel, notre méthode pédagogique et les programmes qu'on a établis.
Ça sera à Quimper pour la première session? Enfin, comment ça va se
passer?
C'est pas sûr.
D'accord. C'est pas sûr. On a plusieurs collectivités aujourd'hui qui sont intéressées par le sujet. On ira là où on sera accueilli.
Dans le Finistère, quand même? Non? Ou en Bretagne?
Moi, je souhaite que ce soit dans le Finistère, mais ce sera peut-être un peu plus loin.
Bon. Et le référentiel, enfin le contenu, alors justement, quel sera-t-il?
Alors, le contenu, déjà, on a adopté dès le départ une façon de les construire, que ce soit en formation longue ou en formation courte, de 3 à 5 jours, sur des thématiques très particulières, eh bien, avant, au tout début de chaque ingénierie de formation, on reconstitue l'écosystème du thème dont on va parler. C'est-à-dire que si on reprend le thème des poissons, eh ben, je mets autour de la table des pêcheurs, des mareyeurs, des scientifiques, des biologistes, des cuisiniers évidemment, oui, et des formateurs. Et quand tout ça est autour de la table, je pose toujours la même question. Qu'est-ce que vous voulez qu'un cuisinier sache de votre métier pour qu'il l'exerce dans la philosophie qu'on partage tous? Et là, ça devient une autre formation. C'est-à-dire que s'il n'y a que des cuisiniers qui parlent, eh ben, on va parler de recettes, de techniques. Et ça va s'arrêter à peu près là. Si on n'a que des biologistes, eh ben, on va avoir que la question de l'environnement, de la biologie marine qui va émerger, etc. Là, en mettant tout ça en commun, et moi, mon rôle à l'USPG, c'est de veiller à ce que tout soit compréhensible aussi dans le langage de la cuisine, que ce ne soit pas trop technique, mais ça permet, ben voilà, dans un premier temps, que plusieurs métiers se posent la question de qu'est-ce qu'un cuisinier doit savoir du milieu halieutique pour cuisiner demain de façon durable. Mm-hmm. Et ça, c'est très, très riche.
Ouais. Et en termes de méthode pédagogique, alors, qu'est-ce qu'il y aura ?
En termes de méthode pédagogique, le premier point, c'est qu'on ne touche le couteau en cuisine que si on a mis les pieds dans le milieu qu'on étudie.
Sur le bateau, quand c'est des poissons.
Exactement.
Ils iront pêcher carrément les élèves, là.
Alors aujourd'hui, ouais. Non. En tout cas, sur les formations courtes, parce que c'est ouais. En général, c'est 5 jours, on n'a pas le temps. Par contre, ils vont sur l'estran. C'est-à-dire qu'on fait une visite avec un biologiste ou avec un pêcheur, ou les deux, c'est encore mieux. Et on explique ce qui se passe sur la plage, sur le littoral, en mer, le lien entre les bassins versants et ce qui se passe en mer, le lien et tout ça, alors pour le coup, sur le thème du poisson, toute cette visite, elle est centrée sur l'histoire du plancton. Mmh, on ne peut pas cuisiner du poisson aujourd'hui si on ne comprend pas l'importance du plancton. Parce que le plancton, c'est lui qui fait le lien entre les pratiques agricoles à la terre et l'asie de disparition de certaines espèces en mer, puisqu'on sait aujourd'hui que l'impact des intrants chimiques dans l'agriculture intensive modifie la structure du plancton et il y a des planctons qui sont aujourd'hui trop gros pour être avalés par certains poissons qui se raréfient, qui ont du mal à se reproduire ou à atteindre les tailles adultes reproductibles. Mmh. Eh bien, une fois qu'on sait ça, on a plus conscience que, ben, effectivement, il faut peut-être privilégier certaines espèces à d'autres et privilégier certains types de production de légumes à d'autres.
Et on a dit, on le redit toujours dans cette émission, l'alimentation, c'est du culturel. Est-ce que, par exemple, les élèves auront l'occasion de rencontrer, je sais pas, des anthropologues, sociologues, alors, psychologues, pourquoi pas?
Oui, tout à fait, exactement. Alors, on a la chance d'avoir un réseau assez élargi et le but, alors sur les 5 jours, en général, on fait intervenir effectivement un sociologue, un anthropologue sur le sujet. Parfois, ce sont des pêcheurs qui eux-mêmes ont fait des recherches en anthropologie ou en sociologie ou en biologie et qui sont capables de décrypter et de nous apporter ces moments-là. Sur l'aspect culturel, il y a aussi dans la façon dont on construit nos formations tout le off. Il y a ce qui se passe dans la formation de 8h à 16h grosso modo. Et puis il y a tout ce qui se passe avant, pendant, après, qui est au moins aussi important. Ce qui se passe au moment du repas, ce qui se passe après avec les intervenants. C'est-à-dire qu'on favorise toujours aussi des moments de rencontre. Quand vous venez sur 5 jours dans le Cap 6-1 pour une formation sur les poissons oubliés, eh bien, il y a les soirées. Et pour nous, les soirées, elles sont au moins aussi importantes que ce qui se passe dans la journée. Et c'est là que vous allez pouvoir prendre plus de temps pour rencontrer un autre pêcheur, sortir de... Voilà, quand on fait une formation au Guilvinec, c'est quand même assez facile d'aller à la rencontre d'autres pêcheurs ou de signaler qu'il y a des cuisiniers qui sont en formation ici et de discuter. Voilà.
Combien de formations propose l'USPG alors actuellement, enfin, ou va proposer à partir de septembre?
On a une petite dizaine de formations courtes qui sont très thématisées sur les algues, la cuisine des algues, ou alors les poissons oubliés, la cuisine du littoral, la cuisine des races locales, la cuisine des végétaux.
Donc plutôt quand même pour déjà des cuisiniers. Enfin,
alors on est vraiment sur la formation continue, d'accord, effectivement. Plutôt des cuisiniers. On n'a pas encore d'offre de formation pour le grand public. Mmh. Et puis après, on a les deux grandes formations. Option, une option cuisine commerciale et une option cuisine plutôt collective.
Et donc pour les prophéties, puisque c'est, elles n'ont pas encore le titre Calliope, enfin c'est Calliope, je suppose, alors, la labellisation.
On est tous qualifiés, toutes nos formations sont certifiées Calliope, mais d'accord. Ça ne suffit pas pour avoir les financements.
Justement, alors comment ça se passe pour les premières promotions alors?
Pour les premières promotions, c'est aussi pour ça que je vous disais que je ne savais pas où on allait atterrir, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un effort d'une collectivité.
D'accord.
Qui dit, eh bien, écoutez, moi je crois en votre formation, je pense que votre formation, non seulement elle est nécessaire, mais il faut qu'elle soit financée. Donc la branche professionnelle valide le besoin. Maintenant, il faut le financer sur les deux premières promotions. Et on a besoin de collectivités qui se mouillent et qui disent bah, les deux premières promotions, nous, on va aider à les financer.
Bon, on lance l'appel, en tout cas. Quand est-ce qu'on saura quand,
J'ai une première réunion avec la région Bretagne le 28 janvier prochain. Donc la prochaine fois qu'on se verra, je pourrai vous donner des informations, en tout cas sur leur accueil. Et j'ai deux autres collectivités hors Bretagne qui se montrent très très intéressées. Ça serait quand même dommage que ça parte ailleurs.
Eh bien voilà, le message est entendu. On en saura plus en tout cas le mois prochain lors de la prochaine émission alimentaire avec l'Université des sciences et pratiques gastronomiques. Merci Xavier.
Merci Véronique.